Bonjour, retrouvez dans cette émission spéciale de Tech News les chroniques enregistrées et diffusées en direct le vendredi 13 mai au lycée Millepeil-Tavin de Mende. Flash Info, chronique, c'est tout de suite sur 48FM.
Bonjour à tous, nous abordons maintenant un point de l'actualité internationale, l'IVG menacée aux États-Unis. La loi Roe vs. Wade de 1973, qui garantit le droit à l'avortement dans tous les États américains, même les plus conservateurs, est aujourd'hui menacée de suppression. L'intervention volontaire de grossesse apparaît aujourd'hui comme un droit à part entière pour la femme qui dispose ainsi de son corps, mais il reste bel et bien en danger, comme en témoigne la situation aux États-Unis.
Effectivement, Lucille, aux États-Unis, les regards sont tournés vers la Cour suprême. L'institution est au cœur d'un virulent débat politique, juridique et social depuis la publication, le lundi 2 mai, par le site Politico, d'un projet d'arrêt de la plus haute institution judiciaire américaine qui pourrait renverser la célèbre jurisprudence Roe vs. Wade de 1973 qui protège le droit des Américaines à interrompre leur grossesse. S'il est adopté tel quel, cet arrêt renverra les États-Unis 50 ans en arrière, à une époque où chaque État était libre d'autoriser l'interruption volontaire de grossesse ou de l'interdire. Il faut bien avoir en tête que les États-Unis se distinguent très nettement des autres démocraties occidentales sur le sujet de l'avortement. Dans la plupart des pays, comme en France, l'opposition à l'IVG existe certes toujours, mais il est devenu marginal après la législation. Aux États-Unis, ça n'a jamais été le cas. Au contraire, après l'instauration de ce droit, l'avortement est devenu un marqueur politique structurant dans le pays. La décision que s'apprêterait à rendre la Cour suprême est l'aboutissement d'un combat de la droite religieuse contre l'avortement qui n'a pas faibli en 50 ans. Aujourd'hui, 50 voix contre et 51 voix en faveur de l'annulation de la loi, mais il en faut 60 pour valider le projet. Les États-Unis sont sous tension depuis ces derniers jours. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Laura.
Merci Camille et bonjour à tous. À la suite de ce Flash Info, l'annonce de l'actualité nationale. Politique, la présentation d'Éric Zemmour aux élections législatives. Covid, la fin du port du masque dans les transports. Bac 2022, les épreuves de spécialité terminées. La parole à Romain pour le détail des titres.
Merci Laura, bonjour à tous. Éric Zemmour a annoncé sa candidature pour les élections législatives sous l'étiquette de son parti Reconquête, dans la 4e circonscription du Var, autour de la ville de Saint-Tropez. Le masque ne sera plus obligatoire dans les transports en commun à partir de lundi prochain, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Cette annonce concerne le métro, le bus, le tram, mais aussi le train et l'avion, mais il reste obligatoire dans les établissements médicaux. Bac 2022. Pour la première fois depuis la réforme, les lycéens ont pu passer le bac sans les perturbations de la pandémie. Les épreuves passées hier étaient les épreuves de spécialité. Mais étant donné qu'elles ont été reportées de 2 mois, passant de mars à mai, les notes ne seront pas prises en compte pour Parcoursup. Je vous remercie pour les informations nationales et je passe la parole à Almir pour les informations locales.
Merci beaucoup Romain. Tout d'abord, législative. Sandrine Descaves et Christian Cosse officialisent leur candidature sous la bannière du NUPES pour le département lausérien. Un peu d'archéologie, une étonnante découverte dans une grotte à La Malène qui attire notre curiosité. Enfin, culture, la 18e édition du Festival d'Olt aura lieu au Blémard le 26, 27 et 28 mai. Plus de détails avec Wendy Ferrier.
Bonjour à tous. En effet, Almir, à l'occasion des élections législatives, Sandrine Descaves et Christian Cosse ont été officiellement investis ce jeudi 12 mai par la Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale, la Nouvelle Union de la Gauche. De fait, Sandrine Descaves reste la candidate titulaire et affrontera notamment le député en fonction, Pierre Morel à l'huissier, se présentant pour un 5e mandat, accompagné de sa nouvelle suppléante. Rendez-vous le 12 juin dans les bureaux de vote. La grotte du Drac, située à 1 km de la Malène, abriterait des gravures datant de l'époque mérovingienne, d'après l'archéologue Millavois Jean-Yves Boutin. Il est certain d'avoir décelé un réel trésor représentant une scène de la Nativité avec la Vierge Marie, l'Enfant Jésus et le Saint-Esprit. Cette découverte est l'aboutissement d'une 20aine d'années de travail acharné. Mais il n'est pas question pour l'archéologue de s'en arrêter à ces fines gravures. Les 26, 27 et 28 mai prochains aura lieu la 18e édition du Festival d'Olt dans le petit village de montagne du Blémard. Un week-end de 3 jours, hors saison touristique, est proposé par l'association Root Boy Crew, où se mêlent art de rue, musique actuelle et scénographie. Il compte sur votre présence. Bonne journée.
Flash info des animaux de cette semaine. Des chevreuils en état d'ébriété, un phénomène naturel mis en lumière. Ces dernières semaines, en Normandie, des chevreuils ivres alimentent nos actualités. Certains animaux sont retrouvés désorientés, déboussolés et déambulant dans un état d'ébriété. Mais qu'en est-il la cause ? Cette explication vient tout simplement de l'ingestion des bourgeons. Ils peuvent en consommer jusqu'à 2000 par jour. Problème, en fermentant dans leur estomac, les substances alcaloïdes ingérées dans ces gourmandises provoquent des effets similaires à une grande consommation d'alcool. Cependant, ce n'est pas le seul facteur qui perturbe cette espèce. En effet, durant le printemps, les jeunes chevreuils doivent aussi quitter leur mère et se retrouvent donc désorientés. C'est pour cela qu'il faut rester prudent sur nos routes. Une raie géante de 4 mètres et 180 kg pêchée dans les mers du Cambodge. Des pêcheurs ont capturé au Cambodge une raie géante étant une des plus grandes races de poissons d'eau douce au monde. Elle a été capturée accidentellement la semaine dernière lorsqu'elle a avalé un petit poisson qui avait mordu à l'hameçon des pêcheurs.
Bonjour à tous, c'est Lamine, on est sur 48 FM avec Yanis et Amoury Evan. On est là pour répondre à vos questions.
Les questions que les parents se posent sur l'utilisation des réseaux sociaux par leurs enfants.
Première question que les parents nous posent, dois-je interdire les réseaux sociaux à mes enfants?
Oui et non, ça dépend à partir de quel âge, à partir du collège, c'est utile pour discuter avec ses copains et récupérer le travail, mais à surveiller au niveau du contenu et du temps passé sur l'écran.
Il faut en effet faire attention au temps d'utilisation du portable pour ne pas que ça nuise à sa concentration et à son attention en classe.
Par contre, on déconseille carrément Twitter où les contenus sont très violents et haineux. Et Telegram, on ne contrôle pas du tout les vidéos diffusées par les membres des groupes auxquels on appartient et on peut recevoir des vidéos ultra-violentes.
Vous pouvez aussi regarder si vos enfants sont en navigation privée. En général, c'est plus pour accéder à des contenus pornographiques qu'ils activent que pour éviter le dépôt des coquilles.
Et du coup, on enchaîne avec une deuxième question qui revient régulièrement. Est-ce que le contrôle parental est utile?
Ben, pas vraiment, car on peut facilement le faire sauter. Il suffit juste de connaître l'adresse email de ses parents pour accéder au paramétrage du contrôle parental.
Et vos parents connaissent quasiment toutes vos adresses mail et vos mots de passe?
On vous conseille donc de ne pas mettre de mots de passe avec des dates de naissance. On peut aussi vous donner un tuyau de stalker.
C'est-à-dire espionner.
Vos enfants?
Ah non, ça c'est pas cool.
Ah bon, ok, revenons à des questions plus sérieuses. Comment je peux protéger mon enfant et être sûr qu'il n'est pas en contact avec des personnes dangereuses?
On peut d'abord vérifier que son enfant n'a pas de compte OnlyFans. Ce sont des cas rares, mais ça vaut le coup de vérifier. Parce qu'on peut vendre des photos de son corps pour avoir un peu d'argent de poche. C'est de l'argent très facile et très bien payé. Une photo de ses pieds bien nus peut montrer jusqu'à 50 euros. On vous conseille donc d'aborder la question de l'argent de poche avec vos enfants.
Et surtout de les expliquer que tout argent se gagne honnêtement, pas en vendant ses pieds.
On peut également vérifier la fiabilité d'un compte Twitter et Snap. C'est assez facile. Sur Twitter, il y a des comptes officiels qui sont certifiés. Ça se repère à un petit badge bleu qui est à côté du nom du compte. Sur Twitter, plus on a de flammes, plus le compte est suivi. Donc c'est plutôt bon signe. Quand un compte est louche, il n'y a pas grand monde qui le suit et puis généralement l'info circule.
Après, il peut y avoir des explications, bien sûr.
Oui, et quand on a un doute, on peut aussi signaler les comptes des utilisateurs. Signaler un compte, c'est indiquer aux administrateurs du réseau social que le compte a des contenus inappropriés, par exemple.
En effet, c'est facile. Sur Instagram, par exemple, on peut le faire quand certains utilisateurs nous harcèlent. Pour bloquer leur contenu, il suffit de cliquer sur les trois points en haut à droite du nom de l'utilisateur et d'aller sur « Signaler ». Après, laissez-vous guider. On vous demandera pourquoi vous voulez signaler ce compte. Ça peut être pour des propos haineux, racistes, incitation à la haine, images de nus, etc., etc. Vous pouvez également, dans certains cas, aller jusqu'à porter plainte.
Merci Mohamed. Voilà donc quelques réponses aux questions que les parents se posent. On espère que cela vous aura éclairé et permis de comprendre un peu ce qui se passe sur les réseaux. Et comment vous pouvez en parler avec vos enfants, puisque de toute manière, le contrôle parental que vous avez installé ne fonctionne déjà plus.
Merci Yanis, mais on vous appellera surtout que malgré toutes ces informations, la solution n'est pas le blocage des comptes. Oui, l'hypersurveillance, il se passe en effet beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, les jeux en ligne, et maintenant par des airdrops, le Bluetooth d'appel. Et le mieux, c'est déjà être informé pour pouvoir en parler avec ses enfants avant qu'ils ne soient actifs sur les réseaux sociaux.
Pour vous donner des exemples de ce que vos enfants trouvent quotidiennement sur les réseaux sociaux, on vous donne rendez-vous avec nos camarades de seconde générale d'ici quelques instants.
Ils vous parleront de leurs pires fails sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire leurs ratés, leurs moments de honte, leurs erreurs. Tout un univers à découvrir pour mieux comprendre ce qui fait le quotidien de vos enfants.
Bonjour, bienvenue à tous, c'est Malo, je suis accompagné de Constance, Joseph et Lilian pour vous parler des fails sur les réseaux sociaux.
Les fails, c'est les risques qu'on prend sur les réseaux, les erreurs qu'on commet, les petits trucs du quotidien qui nous mettent en danger, les contenus qu'on ne cherche pas forcément.
C'est pas tant les risques qu'on prend que ceux auxquels on est exposé sans forcément les chercher.
En effet, les dangers sur les réseaux, c'est pas une fatalité. Les contenus violents, c'est pas obligé d'y accéder, on peut faire des choix et essayer de les éviter.
Ouais, mais parfois, on n'a pas trop le choix et ça nous arrive alors qu'on... Là, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Le pire, c'est quand même les contenus violents.
Les gens qui se défenestrent, ceux qui se blessent volontairement.
Les décapitations, les exécutions.
La scatophilie, certains influenceurs en sont fans en ce moment.
Ça nous tombe dessus quand on traîne sur Twitter, Telegram, TikTok, Discord. Le problème avec Telegram, c'est que c'est crypté. On ne laisse pas de traces. On peut du coup y trouver plein de choses illégales. En plus, rien n'y est banni.
En fait, il faut paramétrer ses comptes pour éviter d'accéder à certains contenus. Activer le filtre des contenus choquants, par exemple.
Oui, mais parfois, on misclique, ça veut dire qu'on clique par accident.
Oui, il faut quand même cliquer plusieurs fois sur les avertissements pour accéder à certains contenus. Donc là, c'est qu'on les a bien cherchés.
Tu sais, sur certains réseaux, il suffit de cliquer une seule fois. Et après, les algorithmes ont mémorisé et nous reproposent ces contenus. Et là, à cliquer sur les liens qu'on nous propose, à nous donc de résister à la tentation pour ne pas visionner ces vidéos.
Même si les contenus que nous voyons pour rire ou pour s'amuser, tout cela reste tout de même violent et marquant pour certaines personnes. Il ne faut pas banaliser cette violence et en le voyant comme une fatalité pour les réseaux sociaux.
Mais heureusement, les réseaux sociaux ont mis en place la possibilité de signaler ou bloquer un utilisateur avec un contenu ou des propos incorrects à ses yeux.
On a aussi des amis qui ont rencontré des personnes qui avaient créé des faux profils et qui se sont retrouvés face à des hommes ou des femmes qui n'avaient rien à voir avec leur profil.
Oui, par exemple, j'ai une amie qui a rencontré... un gars qui avait menti sur son âge. Heureusement, on l'avait rencontré en groupe, donc on a pu intervenir avant que la situation dégénère.
Parfois, on s'en rend compte juste avant la rencontre. Ça arrive surtout sur les jeux en ligne. On peut aussi faire des FaceTime avant la rencontre avec la personne.
Oui, mais tout ça, c'est dans le cas où des vraies personnes créent des faux profils pour attirer des jeunes. Parfois, il y a aussi des faux comptes.
Oui, et les bots, les robots génèrent aussi des faux profils sur Instagram et on reçoit parfois des invitations de prostituées.
Pour ça, il faut analyser le compte. On regarde le profil, les photos, les stories, les abonnés. Et comme ça, les comptes qui ont peu d'abonnés mais plein d'abonnements avec des photos de profil avec des filles en maillot de bain, c'est suspect.
Il y a aussi les comptes avec des emojis PS qui signifient les fesses, des gouttes d'eau qui imitent une éjaculation ou des emojis auberminis mimant les pénis. C'est clair, il ne faut pas y aller si on ne veut pas de contenu sexuel.
Oui, et en plus, il ne faut surtout pas cliquer sur les liens de ces contenus, sinon on se fait pirater ou amener sur des sites avec beaucoup plus de contenu pornographique.
Pour lutter contre ces malfaiteurs, nous pouvons contrôler le compte ou ses abonnements, le stalker. Nous pouvons aussi lui faire montrer son visage, faire des appels. Si malheureusement vous avez toujours un doute sur l'identité ou sur ses intentions, il est préférable que vous refusiez toute rencontre seule avec cet inconnu.
En gros, si j'ai bien compris, tout ça c'est parce que c'est quand même beaucoup question de sexe sur les réseaux sociaux.
En plus, les bots savent que le public principal des réseaux, c'est les jeunes, et que ce sont eux les plus à même de cliquer sur ces liens ou d'être intéressés par ces contenus.
Carrément, on ne compte plus le nombre de deep pics ou de nudes qu'on reçoit. C'est presque quotidien.
Tu sais que quand on est vraiment actif sur les réseaux, on peut recevoir sa première photo de pénis ou de dick pic en 5e. Et après, ça devient complètement banal tellement on en a reçu.
Après les nudes, c'est privé, c'est pas cool. Comme une fille voit fuiter une photo d'elle dénudée alors qu'elle avait envoyé à son copain. Ça arrive souvent. Et c'est encore pire quand quelqu'un screen un nude et l'utilise comme moyen de pression.
C'est vrai que ça arrive souvent. Mais des fois, ce sont les filles elles-mêmes qui les mettent sur leur compte involontairement. On peut parfois se tromper, avoir le doigt qui glisse sur l'écran de notre portable. Un misclic, c'est très vite arrivé. Sur Insta, par exemple, il y a des raccourcis qui permettent de publier une photo très vite. Et même si tu supprimes, dès que tu t'en rends compte, elle a eu le temps d'être vue et capturée. Mais le mieux, c'est quand même, pour pas prendre de risques, de pas prendre ce genre de photos.
Après, on les reçoit pas que sur les réseaux. On en reçoit aussi par AirDrop, le Bluetooth d'Apple. Ça, ça craint, parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui est proche de nous physiquement qui nous l'a envoyé.
Oui, et parfois on est invité par hasard sur des groupes qui font circuler des images de nus qui viennent de Pornhub, par exemple, et puis on y retourne par accident.
Cela est une très petite partie de ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Les fails sont bien évidemment présents, mais les réseaux sociaux peuvent aussi ouvrir plein de portes sur l'information. sur des connaissances saines, sur des événements, que ce soit réel ou pas. Et pour nous, les réseaux sociaux sont davantage un espace de libre expression, de débat et d'abusement.
Bonjour à tous, au programme des informations internationales d'aujourd'hui. Au Sri Lanka, la police obtient le droit de tirer sur les manifestants. Le premier soldat russe va être jugé pour un crime de guerre commis en Ukraine. Et la Cour suprême des États-Unis revient sur l'arrêté Roe versus Wade qui autorise le droit à l'IVG et pourrait l'abroger. Je laisse donc Lucas vous présenter ces informations en détail.
Merci Alexandre. Émeute au Sri Lanka. Au Sri Lanka, alors que le pays est plongé dans une crise économique sans précédent, la police a reçu l'ordre de passer à l'offensive et de tirer à balles réelles sur les manifestants pour éviter l'anarchie dans le pays. Guerre en Ukraine. Un militaire russe de 21 ans est accusé d'avoir tué dans la rue, avec une Kalachnikov, un civil qui n'était pas armé. Ce serait le premier procès pour crime de guerre en Ukraine depuis l'invasion russe. Des journalistes et ONG rassemblent des preuves pour accuser l'armée russe de crime de guerre en Ukraine. Le droit à l'avortement est remis en cause aux USA. Le droit à l'avortement aux USA n'a jamais été aussi menacé depuis une cinquantaine d'années. En effet, la Cour suprême pourrait bien abroger l'arrêté Roe versus Wade qui autorise l'avortement au niveau fédéral. Ce serait donc à chacun des 51 États de choisir si oui ou non ils autorisent l'avortement. Maintenant, je vous passe Lisa pour les informations nationales.
Merci Lucas. Voici les informations nationales. Éducation. Les élèves de terminale ont passé pour la première fois, mercredi et jeudi, les épreuves de spécialité du nouveau bac. Santé. La fin du masque est annoncée dans les transports. Société. L'ancien présentateur vedette de TF1 n'est plus que jamais dans la tourmente. Hashtag MeToo. Je laisse la parole à Chloé.
Merci Lisa. Après 3 jours d'épreuves, les élèves de terminale auront tous fini leurs écrits de spécialité ce soir. Il ne leur restera alors que les épreuves pratiques, la philosophie et le grand oral avant la fin définitive du baccalauréat 2022. Ils ne sont pas les seuls à reprendre leur souffle. En effet, le ministre de la Santé l'a confirmé, les masques ne seront plus obligatoires dans les transports. Seuls les lieux liés à la santé nécessitent encore son port. Un collectif de 20 femmes a été reçu par le journal Mediapart dans le cadre de l'enquête sur des agressions sexuelles et viols qui auraient été commis par Patrick Poivre d'Arvor lorsqu'il était le présentateur star du 20h de TF1. Parmi elles, certaines prennent pour la première fois la parole à visage découvert. Cette affaire PPDA, tentaculaire, est symptomatique du mouvement MeToo et de la libération de la parole de la femme. Je laisse la parole à Dimitri pour les titres régionaux.
Merci Chloé. Voici les titres des informations locales. Environnement. Bonne nouvelle pour la biodiversité lozérienne, 2 gypaètes barbus de plus dans le ciel des Grands Causses. Agriculture. L'agriculture lozérienne, tiraillée entre dépit et espoir pour l'avenir. Enfin, politique. Les élections législatives sont lancées en Lozère. Sandrine Descaves, Pierre Morel-Aluissier et Laurent Suau sont candidats, entre autres. Sacha, c'est à vous.
Environnement. Venus de Haute-Savoie et de République tchèque, Rock et Roy, 2 poussins gypaètes de 3 mois, sont venus rejoindre leurs 11 autres congénères sur le Cosmejan. Ce lâcher rentre dans le programme de la sauvegarde de l'espèce dans le sud du Massif central. La LPO, Ligue de protection des oiseaux, espère que le gypaète des Grands Causses permettront de relier les populations des Pyrénées et des Alpes afin d'assurer le brassage génétique. Agriculture et économie. Catastrophique. C'est ainsi que le président apicole de la Lozère, Henri Clément, a qualifié les récoltes 2021 de miel. Mais l'heure n'est pas au découragement, surtout quand on sait que les apiculteurs lozériens ont raflé 13% des médailles au concours des miels de France au Salon de l'agriculture. Le syndicat des apiculteurs, qui compte plus de 200 adhérents, planche sur une charte de bonnes pratiques apicoles dans un but de pédagogie à un moment où la ressource se fait raréfier. Politique. Sandrine Descaves a été choisie comme candidate de la nouvelle Union populaire, économique et sociale, qui rassemble toutes les forces de gauche. Avec son suppléant Christian Cosse, elle se lance dans une campagne de 4 semaines jusqu'au premier tour le 12 juin. Elle affrontera notamment le député sortant Pierre Morel-Aluissier, qui se présente pour un 5e mandat, mais aussi le maire de Mende, Laurent Suau, qui se présente sous l'étiquette de la majorité présidentielle. Merci de nous avoir écoutés.
Cette année, avec l'équipe de Tech News, on a commencé à réfléchir au gaspillage alimentaire au lycée. Est-ce qu'on gaspille beaucoup au self? Et si oui, que peut-on mettre en place pour le réduire? On a donc mené l'enquête au sein du lycée. Pour cela, on a d'abord conçu un questionnaire d'enquête et on l'a ensuite soumis à nos camarades du lycée et de manière générale à tous les usagers du SELF, enseignants et personnels du lycée compris. Les élèves de première année de BTS MCO du lycée ont traduit les résultats des sondages en statistiques et en voici les résultats.
Sur tous les participants interrogés, 32% considèrent que le gaspillage au SELF est excessif, 38% qu'il est moyen. Près des deux tiers estiment donc que l'on gaspille, voire que l'on gaspille trop quand on prend son repas au lycée. Et seuls 7% trouvent que ce gaspillage est minime. Ensuite, 26% des personnes disent ne pas finir entre 1 et 4 plateaux par semaine, et les causes de ce gaspillage sont dues, selon ces dernières, en majorité à une question de qualité des menus proposés. Cependant, pour 12% des sondés, c'est le goût des plats et le manque de temps qui sont responsables de ce gaspillage. Seuls 13% des sondés disent finir tous leurs plateaux. Sur l'ensemble du gaspillage, ce sont les plats, 61%, et les entrées, 26%, qui sont le plus régulièrement gaspillés. Outre les questions de qualité et de goût des plats, pour 8% des élèves, les quantités sont trop grandes et pour 8% autres, les élèves n'osent pas demander moins. Pour 58% des personnes interrogées, l'ordre de choix des plats n'est pas la cause du gaspillage. 9% estiment que cet ordre de choix peut être la cause du gaspillage et 33% sont sans opinion ou indécis sur cette question. Ainsi, quand on totalise les indécis ou sans opinion, peut-être qu'une partie des personnes pourrait être intéressée par un changement d'ordre dans la proposition des plats. Parmi les participants qui se sont exprimés sur la question, soit 80% des questionnaires, on pourrait proposer les entrées en premier, puis le plat et enfin les desserts et les produits laitiers. En revanche, pour réduire nettement le gaspillage, 50% des questionnaires suggèrent d'améliorer la qualité des menus proposés et 22% de proposer davantage de frites.
On peut donc en conclure que même si le gaspillage n'est pas trop excessif, il est cependant suffisamment présent pour être problématique. La solution pour réduire le gaspillage pourrait donc être de travailler en commission des menus qui réunit des élèves, personnels et commensaux afin de discuter des menus et repas. Cette commission devrait pouvoir permettre de réduire le gaspillage en adaptant les menus aux demandes des élèves et personnels tout en restant dans le domaine de ce qui est réalisable en cuisine.
Bonjour à tous, bienvenue sur notre plateau en direct du lycée Émile Pétaveng. Des élèves de seconde ainsi que moi-même allons vous présenter des sujets qui nous tiennent à cœur. Bon, commençons par un point mécanique automobile.
Alors aujourd'hui, on va vous donner des tuyaux pour savoir si c'est mieux de changer votre véhicule thermique pour un véhicule électrique ou pas.
Mais avant toute chose, quelques rappels sur ce qu'est un véhicule électrique et ce qu'est un véhicule thermique. Comme ça, vous pourrez faire votre choix. Alioun, je te laisse la parole. Dis-nous tout sur les véhicules électriques.
Déjà, le véhicule électrique, c'est l'avenir. Ça pollue moins parce qu'il n'y a pas de gaz d'échappement. Économiquement, c'est mieux parce qu'il n'y a pas d'usure des pièces. Donc, il y a moins de remplacement de pièces à faire. Et donc, du coup, en gros, on change que les filtres, les pneus et les freins. Et aussi, il y a un autre point positif avec les électriques. C'est fini les vidanges.
Merci, Alioun. Mais le thermique a quand même beaucoup d'avantages. Les coûts de production sont différents de ceux des véhicules électriques car on n'a pas besoin des mêmes matériaux. On a besoin de lithium et de cobalt pour les batteries. Ce sont des matériaux rares et chers et qui nécessitent une main-d'œuvre particulière. La recherche de ces matériaux, comme pour tous les téléphones portables, est à l'origine de conflits dans les pays où sont extraites ces ressources. Mais ce n'est pas le seul avantage. Il n'y a pas besoin de renouveler un parc automobile entier, déjà volumineux et fonctionnel. En effet, on recherche à remplacer tous les véhicules thermiques construits depuis les années 80 par des véhicules électriques. Alors que ces véhicules sont encore en état de marche et ont déjà eu un coût de production et une empreinte écologique.
Oui, mais le véhicule électrique, ça représente une vraie économie pour les ménages, qui devront débourser entre 5 et 10 euros pour une charge et pour une autonomie comprise entre 200 et 600 km. Quand on connaît le prix du gasoil, c'est vite fait le calcul. Le coût à l'achat, c'est pas forcément plus élevé. Et en plus, les villes, elles s'équipent de plus en plus de bornes pour recharger les batteries.
Oui, mais le véhicule thermique a une meilleure autonomie. Donc si vous faites beaucoup de kilomètres au quotidien, le véhicule thermique, ça reste le plus adapté. En fait, ça dépend vraiment de votre utilisation. Sur des petits trajets du quotidien, en fonction d'où vous habitez, eh bien vous pourrez opter pour l'électrique.
À la campagne, c'est idéal. L'électrique, ça fait pas de bruit. Et comme ça, on ne dérange pas les autres.
Sauf que l'absence de bruit du moteur, ça peut aussi représenter un danger. Car contrairement au thermique, on n'entend pas la voiture arriver. Plusieurs piétons et cyclistes se sont déjà fait surprendre. Et puis en vrai, avis de mécano, il n'y a rien de plus beau que le bruit d'un pot.
Merci Maxime.
Bonjour à tous, moi c'est Antonin, je suis en seconde mécanique et je vais vous parler de la crypto-monnaie. Ce concept a été créé par David Chaum en 1989, mais la première vraie crypto-monnaie n'est apparue qu'en 2009, le 3 janvier. C'est Satoshi Nakamoto qui est le créateur du très connu Bitcoin. Bit pour l'unité de codage en informatique et coin pour monnaie en anglais. Une crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est ? La crypto-monnaie est une monnaie numérique uniquement utilisée sur Internet. Elle est indépendante des réseaux bancaires et elle est sécurisée par un système de cryptage. Le cryptage, autrement appelé le chiffrement, est un procédé de blocage grâce auquel on souhaite rendre incompréhensible un document dont on ne possède pas la clé de déchiffrement. Il existe des centaines de crypto-monnaies, mais les plus connues sont le Bitcoin, l'Ether, le Binance Coin, Tether et Solana. Il n'existe aucune crypto-monnaie européenne, car l'Union européenne estime que cela reviendrait au même que l'euro. La seule différence étant la dématérialisation. Cette forme de monnaie électronique serait émise par l'eurosystème et donc contrôlée par les banques centrales de la zone euro. Acheter des crypto-monnaies, c'est faire un investissement. La valeur de cette monnaie numérique évolue en fonction de son cours. Aux États-Unis, Joe Biden a annoncé qu'une version numérique du dollar allait être mise en place pour accélérer les transferts et réduire les frais bancaires. Cette alternative nationale est encadrée par l'État, pourrait permettre toujours, selon le président américain, d'avoir une alternative moins risquée au Bitcoin ou à l'Ether. Elle permettrait aussi de favoriser l'accès à un compte en banque pour les 5% de foyers américains n'ayant pas encore de compte bancaire. Ce projet a connu un coup d'accélération avec la guerre en Ukraine. Les États-Unis craignaient que les oligarques et le pouvoir russe n'utilisent les crypto-monnaies pour contourner les sanctions financières. Ils veulent donc créer une sorte de contre-pouvoir avec un dollar numérique. Les crypto-monnaies semblent donc avoir de beaux jours devant elles. Elles représentent un investissement qui pourrait concerner les populations les moins favorisées et jouer un rôle dans les relations internationales.
Merci Antonin. Bonjour à tous, je m'appelle Tom et je vais vous présenter une chronique sur le Grand Prix de Monaco de Formule 1 qui va bientôt avoir lieu. Nous avons décidé de vous parler de ce sujet car nous sommes des élèves de la section mécanique auto du lycée et que nous sommes fortement intéressés par la F1. De plus, il y a l'engouement général autour de la Formule 1 depuis la sortie Netflix Drive to Survive. Le Grand Prix de Monaco a été créé en 1950 lors de la première édition officielle de la Formule 1. C'est donc un des tout premiers Grands Prix. Cette année, le 79e Grand Prix de Monaco aura lieu du 27 au 29 mai 2022. Le circuit fait 3 337 km. Les pilotes auront à parcourir 78 tours pour un total de 260 km, ce plus court que la moyenne habituelle qui est de 300 km et qui est une valeur normalement obligatoire. Cela est dû à la particularité du circuit urbain de Monaco. Le circuit est mis en place le 15 mars pour le Grand Prix de Formule 1 qui a lieu fin avril, puis pour le Grand Prix historique avec les anciens véhicules. Au total, le circuit reste en place pendant 2 mois et demi dans le centre-ville de Monaco. Il n'existe d'ailleurs que 3 villes au monde qui possèdent des circuits urbains, Bakou en Azerbaïdjan, Melbourne en Australie et Jeddah en Arabie Saoudite. Le premier Grand Prix de Monaco a donc été gagné en 1950 par Williams Grover Williams au volant d'une Bugatti Williams 35B. 5 Français ont gagné ce Grand Prix depuis sa création. Maurice Trintignant, Jean-Pierre Beltoise, Patrick Depailler, Alain Prost et Olivier Panis. Cette année, un monégasque Charles Leclerc est potentiellement un des favoris car il est en tête du championnat de Formule 1. Ce serait pour la première fois qu'un local gagnerait l'épreuve à domicile. L'année dernière, il avait déjà réussi à obtenir la pole position aux qualifications avant d'être victime d'un problème mécanique pendant le tour de formation. Cette année n'est pas commune car avec la réglementation de 2022, les monoplaces sont beaucoup plus grosses en largeur, ce qui avantage celui qui est en pole position. Nous avons hâte d'y être. Rendez-vous le 27 mai et rendez-vous au premier virage. Merci.
Merci Tom. Notre chronique va évoquer un syndrome méconnu. Avez-vous déjà entendu parler de la chute du gland de lait ? Nous, la première fois qu'on l'a entendu, c'était sur un serveur Minecraft. Du coup, on a décidé de mener l'enquête. Il s'agit du premier gland qui pousse et qui tombe au moment de l'adolescence. Selon une étude afro-américaine, franco-polonaise, le gland de lait, de son nom latin glandulae lactalis remulus, serait apparu chez un certain Lucas. Celui-ci était alors seulement âgé de 6 ans lors de l'apparition du phénomène. Lucas nous a expliqué que son gland s'était coupé en deux, puis était tombé jusqu'à ce qu'un nouveau vienne le remplacer. D'après nos recherches, nous devrions le perdre avant nos 21 ans pendant un rapport protégé. Selon la famille de l'enfant, Lucas aurait pleuré tel un bébé. Suite à quelques rumeurs féministes, complotistes, le gland de lait serait une pure invention de la part de la gente masculine, afin de prouver une certaine douleur vécue. La première trace écrite du gland de lait daterait du XVe siècle. Le roi Louis IX étant décrit comme un individu n'ayant jamais perdu son gland de lait, et qui par conséquent s'engagea dans les croisades pour prouver qu'il n'était pas possédé par le démon. De nos jours, le gland de lait n'est toujours pas abordé dans les cours d'éducation sexuelle ou encore de biologie. Plusieurs votes de loi sont en cours pour faire entrer ce sujet tabou, mais important dans le programme scolaire au collège et au lycée. Quand le gland de lait tombe, il s'agit donc place au gland de sagesse qui prend entre 2 et 3 semaines pour pousser. Durant cette période, il ne faut pas oublier de consulter un orthoglandiste expérimenté pour qu'il vous prescrive un glantifrice adopté au profil. Si le gland de sagesse a du mal à repousser, l'orthoglandiste peut vous prescrire un appareil glandaire pour qu'il se remette en place. Si vous nous avez cru, c'est qu'il est en effet très facile de créer un fake news. Il s'agissait bien d'un entendu d'une blague, par du meilleur goût, ici de notre imagination adolescente. Nous espérons toutefois que vous avez bien rigolé et que l'on ne vous a pas trop inquiété. Merci.